Bonjour à tous et bienvenue dans PolitiTalk, troisième numéro dans cette semaine de décembre. Bonjour Léa.
Bonjour à tous.
Bonjour également à nos deux invités, Damien Lempereur qui est avec nous, porte-parole de Debout la France, bonjour.
Bonjour.
Et Paolo Levi, journaliste italien, résident à Paris pour la Stampa et l'agence italienne, l'AFP italienne.
Bonjour.
Alors aujourd'hui donc pour cette nouvelle émission, on va évidemment parler des gilets jaunes, du point de départ aux manifestations, à la situation actuelle. On va revenir sur tout cela dans un petit instant. Avant, je voulais quand même présenter plus en profondeur notre invité, Damien Lempereur. Donc vous avez 34 ans, vous êtes avocat au barreau de Paris, oui. Diplômé de l'ESCP, oui. Europe et ASSAS en droit des affaires. Vous avez également étudié au conseil à Cornell, aux États-Unis. Et vous êtes aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan depuis 2008.
Depuis quelques années, effectivement, et depuis le tout début de Debout la France.
C'est ça, vous avez été directeur stratégique de sa campagne présidentielle dès 2012, en charge des relations avec les partenaires européens. Oui. Comment a commencé votre engagement en politique?
Alors, très simplement, vous rappeliez que j'étais étudiant à l'ESCP Europe, et quand on est en école de commerce, en business school, on doit faire des stages. Et moi, j'avais pas envie de faire un stage dans la finance, dans la banque, comme tous mes camarades. Et comme j'étais passionné par la politique, j'ai cherché un homme politique qui me semblait différent du Parti Socialiste, de l'UMP, que j'avais plus confiance dans la politique. Et Nicolas Dupont-Aignan venait de quitter Nicolas Sarkozy au moment où Sarkozy allait devenir président. Mmh. Et je me suis dit, tiens, celui-ci, il est courageux. Et voilà, c'est une rencontre avec un homme courageux. Et après, la politique de campagne en campagne, on prend des responsabilités.
C'est ça. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui vous faites notamment le tour des plateaux télé.
Exactement.
Pour défendre les idées de Nicolas Dupont-Aignan. Alors on va revenir donc sur le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement de Gilets jaunes qui est donc ce mouvement de protestation non structuré qui est apparu en France en octobre dernier. Ce mouvement, faut-il le rappeler, a pour motivation initiale le rejet de l'augmentation de la taxe sur les produits énergétiques. Il s'élargit rapidement à d'autres revendications fiscales, sociales et politiques. Et une première date pour symboliser ce mouvement, c'est celle du 17 novembre 2018, samedi 17 novembre 2018, l'acte 1 des manifestations qui a commencé en province, qui s'est ensuite déroulé à Paris sur le deuxième et le quatrième acte. Que reflètent, selon vous, les Gilets jaunes?
C'est très important ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça dans le pays, et c'est pour ça qu'avec Debout la France, on était très rapidement aux côtés des Gilets jaunes. En réalité, moi j'étais Gilet jaune avant le mouvement, puisqu'on a organisé déjà des opérations sur des péages autoroutiers pour dénoncer le racket des autoroutes en 2015. On avait fait une opération, vous rappeliez que j'étais dans la campagne présidentielle en 2012, on avait organisé une opération sur une pompe à essence pour démontrer qu'il y avait un problème sur le prix de l'essence qui était constitué majoritairement des taxes. Donc ce qui ressurgit avec ce mouvement, c'est des problèmes plus profonds qui sont ancrés dans le pays depuis des années et qui sont, à mon sens, d'une part un problème de consentement à l'impôt, à savoir que les Français, les citoyens ont compris que la façon dont était réparti l'impôt dans notre pays était profondément injuste, à savoir que la majorité des impôts et des taxes pèsent sur les catégories populaires et les classes moyennes, alors que les plus riches, que ce soit les GAFA, les grands groupes ou même les ultra-riches, nos compatriotes les plus fortunés, ne payent pas d'impôts en comparaison à la masse des Français. Donc il y avait ce problème du consentement à l'impôt qui a ressurgi donc sur la taxe carbone. Vous l'avez rappelé, je fais un petit aparté, taxe carbone, et ce qui, je pense, a fait déborder, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'on a avancé le prétexte de l'écologie, alors que tout le monde avait bien compris que c'était juste une façon de taxer les Français, parce que si on voulait faire des choses pour l'écologie, il y aurait mille choses à faire, et ça consiste pas à taxer les plus pauvres. Et puis ce mouvement, c'est aussi une demande de démocratie, de plus de démocratie directe, et là aussi ça ressurgit des profondeurs, c'est l'échec de 30 ans, je crois, de mauvaise politique dans notre pays, et cette demande de démocratie, c'est une crise de la légitimité, crise de la représentativité. Les Français ne se sentent plus représentés par ceux qui les dirigent. Et c'est pour ça qu'on a eu, sur ce problème de consentement à l'impôt, une exigence de démocratie, la demande du référendum d'initiative citoyenne, par exemple, plus de proportionnel à l'Assemblée, pour faire court. Voilà, toutes ces demandes parfaitement légitimes.
Est-ce que vous pensez que les mesures effectivement de démocratie directe pourraient venir contrecarrer ce problème de sentiment de sous-représentation en fait? Ouais. Est-ce que juste pour replacer les choses dans leur contexte, vous vous souvenez du taux d'abstention au dernier tour législatif en France?
Ah, il était supérieur à 55% de mémoire, donc massif, gigantesque. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ailleurs de démocratie entre nous quand il y a des taux d'abstention qui sont aussi élevés, quand des centaines de milliers de compatriotes ne sont pas inscrits sur les listes électorales, quand vous avez un système de financement des partis politiques qui fait que c'est quasiment impossible pour un parti nouveau d'intégrer la vie politique, et quand vous regardez le premier tour de l'élection présidentielle et vous prenez les scores, par exemple, de Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon, qui ont fait presque 50% des voix au premier tour, 45 à peu près, et qui sont représentés par moins de 20 députés. Donc oui, il y a une fracture démocratique. Et je pense que ces mesures...
C'est pas la même élection.
Non, mais je pense que... Mais c'est encore pire, les législatives, puisque comme c'est un scrutin à deux tours majoritaire, pour gagner, il faut faire des alliances. Et les Français ont bien compris que cette nécessité de s'allier des gens qui sont pas d'accord entre eux et qui finalement ne s'allient que pour le poste, que pour la place, crée une assemblée qui est totalement en décalage avec la réalité. Sur les gilets jaunes, quand vous pensez, quoi qu'on en pense d'ailleurs, qu'on soit pour ou contre, que vous avez un soutien majoritaire de l'opinion, 80% au début, maintenant encore plus de 60% je crois, et qu'à l'Assemblée, en réalité, vous avez exactement l'inverse, ça veut dire 70 ou 80% de l'Assemblée qui s'oppose à ce mouvement, vous voyez que la fracture, elle est totale. On est sur le journaliste italien a introduit la notion d'Europe dans ce débat, et il y avait le référendum de 2005, vous aviez 80% de l'Assemblée nationale qui était pour le oui au référendum sur la Constitution européenne, et le peuple français a voté non majoritairement, donc il y a une fracture totale. Et je pense que introduire de la démocratie directe, par exemple le référendum d'initiative citoyenne, mais aussi une réforme du système de financement, une réforme de la représentativité en introduisant la proportionnelle, pourrait déjà être un début de réponse à la crise démocratique, je le pense sincèrement.
L'introduction de la proportionnelle, c'est une proposition qui a été faite par le président de la République, donc c'est des choses qui vraisemblablement devraient avancer dans ce sens. Peut-être. Revenons plutôt sur le référendum d'initiative citoyenne, si vous le permettez. Certains disent qu'il faut l'encadrer. D'après vous, comment il faudrait l'envisager et quel procédé, en fait ?
À Debout la France, notre modèle, c'est un peu le général de Gaulle. Et il y a toujours dans la Constitution de la Ve République le référendum. Le problème, c'est qu'il a été bafoué. Je parlais de 2005. Et il a surtout été trop peu utilisé. On n'a jamais demandé leur avis aux Français sur les questions fiscales, sur un sujet polémique, par exemple, comme l'immigration, la régulation des flux migratoires, qui est un sujet normal dans toutes les démocraties. On n'a jamais consulté les Français. Et donc, il y a eu finalement une perte de confiance dans la façon dont les gouvernements ont utilisé, y compris le référendum. Donc c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il faut un vrai référendum d'initiative citoyenne. Et moi, je ne crois pas qu'il faille l'encadrer par, comme aujourd'hui, le soutien de parlementaires, oui, députés ou sénateurs.
Partagée,
voilà, tel qu'il existe. On a déposé, nous, une proposition qui n'a pas été suivie d'effet, puisqu'il faut des centaines d'élus qui le valident. Donc je pense, moi, qu'un référendum d'initiative citoyenne, avec un seuil, bien sûr, un peu comme en Italie, en Suisse, qui correspondrait en France, ramener à la population peut-être à 500 000, 600 000 signatures, sans verrou parlementaire, pourrait être une bonne question. Après, moi, je fais confiance aux Français, une fois que le sujet est posé, pour juger, pour arbitrer. Est-ce que c'est bon ou pas ? Il y aura des débats. Mais je ne pense pas qu'il faille mettre trop de verrous institutionnels. J'ai confiance dans le bon sens populaire. En tout cas, c'est notre avis à Debout la France.
Et en matière, en termes plus organiques, disons, est-ce que vous pensez que ce référendum serait en mesure d'être applicable à n'importe quel sujet, à n'importe quelle question ?
Oui, moi,
une séparation aujourd'hui du domaine réglementaire et législatif, typiquement, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit empiéter sur le domaine réglementaire ? Est-ce que ça doit être réservé au domaine législatif ? Quid des valeurs des textes constitutionnels aussi ?
Moi, je pense précisément qu'il ne faut pas limiter, y compris les domaines dans lesquels on pourrait poser une question. À Debout la France, nous sommes très critiques et même nous sommes radicalement opposés à la suprématie des décisions supranationales sur le droit français. On aimerait inverser l'ordre. On pense que c'est la Constitution française et les décisions prises au nom du peuple français qui devraient avoir la primauté sur soit les décisions de la CJCE, soit les décisions en matière économique qui sont prises dans le cadre de la Commission européenne ou de l'OMC. Et donc justement, le référendum serait un moyen d'inverser cet ordre.
Je me permets de vous interrompre. Dans le cadre de l'Union européenne, bon, pas la CJCE, puisque c'est une juridiction donc indépendante, on espère.
La CEDH, oui, d'accord.
La CEDH et la CJCE, oui, par ailleurs. CJUE, pour être plus précis aujourd'hui. Le reste, ce sont les États, en fait, qui font les mesures. C'est-à-dire qu'au sein de l'Union européenne, on est certes dans le supranational, mais ceux qui décident, ce sont les États. Et c'est la même chose au sein de l'OMC.
Eh ben moi, nous, on croit.
La souveraineté reste.
On a une analyse sur ça radicalement différente. Moi, j'entends cette analyse et souvent, quand je suis parfois face à des, y compris des députés de La République En Marche, qui sont très cohérents, ils sont dans une logique fédérale où ils aimeraient arriver à une forme de démocratie fédérale où ils considèrent que le Parlement européen est représentatif, où les décisions prises au Conseil de l'Europe sont finalement la volonté des différents. Ils ont cette analyse qui est fédérale, qui est cohérente. Moi, nous, à Debout la France, avec Nicolas Dupont-Aignan, on la conteste formellement. On pense que la façon dont devrait s'organiser l'Europe est sur la forme des coopérations. Donc c'est un modèle totalement opposé. Nous, c'est celui pour lequel on se bat et qui consiste à considérer que la souveraineté ne peut pas être partagée. Et que, en revanche, on doit travailler entre partenaires européens, comme on a fait Airbus, comme on a fait Ariane, et que, au contraire, depuis qu'on est dans ce système-là, que vous décrivez, de la Commission, en réalité, ce ne sont plus les politiques qui prennent les décisions, mais les lobbies qui mettent une énorme pression, et les organisations internationales qui ont totalement enserré ce que vous décrivez, qui devrait normalement une forme de souveraineté partagée.
Pour revenir un petit peu à notre sujet, hein, Damien Lempereur, on s'éloigne et puis en même temps,
c'est
quand même des sujets qui sont liés, hein, parce que ça fait partie des revendications des Gilets jaunes aussi, qui demandent peut-être un petit peu moins d'Europe et plus de souveraineté. Emmanuel Macron...
Mieux d'Europe. Il faut faire l'Europe mieux.
Mieux d'Europe, exactement. Sur un plan purement économique, Emmanuel Macron donc est revenu sur la scène début décembre dans une allocution au journal de 20h qui a duré une vingtaine de minutes, dans laquelle il est revenu notamment sur la CSG, promettant également donc la hausse du SMIC de 100 €, tout en défiscalisant les heures supplémentaires. Ces mesures, comment vous les avez perçues à Debout la France et vous personnellement ?
Et je pense que Emmanuel Macron a raté. C'était sa dernière carte, en réalité, cette intervention. 21 millions de téléspectateurs, les Français, les Gilets jaunes notamment, attendaient beaucoup. Et en réalité, il s'est trompé dans l'enjeu, c'est-à-dire qu'il a lâché un petit peu. Il a d'ailleurs, entre nous, vraies fausses mesures, parce que sur le SMIC, on voit le cafouillage. Sur la retraite, il a lâché un peu sur la CSG, mais il n'a pas réindexé les retraites sur l'inflation. Et en réalité, ce que les retraités vont payer... en perte d'indexation sur l'inflation jusqu'à la fin du mandat, c'est beaucoup plus que la CSG. Dans la plupart des pays européens, les retraites sont indexées sur l'inflation. C'est normal. C'est le cas aussi en Italie, ou en tout cas, sont indexées sur les salaires. Là, les retraites en France sont gelées. Donc il y avait ces vraies fausses mesures. Il a effectivement lâché un peu. Par exemple, les heures supplémentaires défiscalisées, moi, je trouve que c'est une bonne mesure. Mais je pense, sincèrement, hein, je ne sais pas pour faire de la politique politicienne, que c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Puisqu'on a parlé là de l'enjeu démocratique, j'y reviens pas. Mais sur l'économique, ce que je pense, hein, c'est notre avis juste à Debout la France, hein, je prétends pas avoir la science infuse, mais je pense que ce que les compatriotes veulent, c'est un changement radical de politique économique. C'est-à-dire que plutôt que de lâcher quelques millions ici ou quelques millions ici, il faudrait faire en sorte que la croissance reparte. C'est-à-dire qu'on sorte de ce libre-échange déloyal qui fait qu'aujourd'hui, on ne se défend pas par exemple face à la Chine, dans la guerre économique de la mondialisation. On laisse venir les produits importés sur le désastre environnemental, sur l'esclavage humain, bon bref, je vous en passe. Et on n'a pas réintroduit de la loyauté dans l'échange. Et je pense qu'il aurait fallu prendre des mesures plus radicales, de protectionnisme intelligent, de relocalisation des emplois sur le continent européen, par exemple. Bon, bref, faire tout ce qui est interdit aujourd'hui, on y revient par les règles de l'OMC, etc. Mmh.
Alors justement, on va à présent, parce qu'on parle quand même beaucoup d'Europe, de souverainisme, on va quand même à présent accueillir Paolo Lévy, hein, qui est avec nous et qui vous écoute sagement depuis tout à l'heure. Je vous avoue qu'il fait quelques petites moues sur certaines de vos déclarations. Paolo, on va vous écouter parce qu'on aimerait quand même avoir votre avis sur cette crise, parce qu'on peut parler de crise des Gilets jaunes, sur cette crise de la représentativité politique en France. Comment vous percevez ça de votre œil d'Italien, mais également de votre œil d'Européen ?
Mais pour moi, ça a été une cure de jouvence, c'est-à-dire que soudainement, j'ai vu apparaître en France exactement le même mouvement, les mêmes discours, les mêmes éléments et revendications qu'avait été apporté désormais il y a 11 ans, moi j'étais encore un gamin, en Italie, avec ce qu'on a appelé à l'époque le vaffanculo dei, le va te faire foutre dei, quand les citoyens italiens, en tout cas nombreux entre eux, sont descendus dans les places, ont envahi l'espace public, et exactement comme les Gilets jaunes ont tiré par le bras les gouvernants en disant hey, « Eh oh, on existe aussi, qu'est-ce que vous faites ?» Et ça a été le début d'une extraordinaire aventure qui a porté ce mouvement à se structurer politiquement, à se présenter aux élections. La première élection qui a été gagnée par les Gilets jaunes italiens, donc le mouvement 5 étoiles, c'était à la mairie de Parme. Et ensuite, depuis la mairie de Parme, ils sont passés aux européennes, aux législatives. Et aujourd'hui, 11 ans après, ils sont au sommet du pouvoir et ils gouvernent dans une alliance assez bizarre avec Matteo Salvini, qui est un peu l'équivalent italien de Marine Le Pen. Et donc, on les a à l'épreuve du pouvoir tous les jours, on les voit, et c'est exactement les mêmes discours qu'on entend faire aux Gilets jaunes. Et c'est très, très intéressant parce qu'en France, on les voit, disons, investir les rues, et en Italie, ils se sont en quelque sorte institutionnalisés en acceptant les règles du jeu démocratique et en se portant candidat. Donc, c'est la prochaine étape. Le plus intéressant va être ce que vont être les prochains mois. Est-ce que ces gilets jaunes français vont être en mesure de suivre l'exemple de leurs cousins italiens et de se porter candidats, eux aussi, aux prochaines échéances électorales? Je pense notamment aux européennes et aux municipales.
Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence, il y a un climat très différent entre la manifestation en France et la manifestation en Italie? Les Français
vous sont... savez, chaque pays ensuite a son caractère national ancré dans l'histoire de la nation, etc. Donc c'est vrai qu'en France, il y a plus une tendance à tout casser. Ces scènes-là de violence, on les a jamais vues en Italie. Les gilets jaunes italiens, c'est-à-dire pendant les va fanculo dei, les va te faire foutre dei, on n'a jamais touché même pas à un poteau de l'électricité, parce que non, c'est pas une façon de faire qu'ont les Italiens. Ça a été ça a été des manifestations massives dans les rues, mais jamais on a vu les scènes de casse qu'on a vues à Paris, etc. Mais après, ça c'est juste des caractères nationaux. Nous, on est un peu plus placide comme population. Ici, il y a une violence qui bouillonne, et probablement c'est aussi dû au fait que, effectivement, comme a été rappelé à maintes reprises ces derniers mois, Paris, l'Italie n'a pas cette centralisation française où tu as Paris et ensuite tu as ce qu'on appelle la province. Mais qu'est-ce qu'elle méprisante, cette expression la province? Si moi je suis à Rome et je dis la province, je risque de me faire taper dessus par un Milanais, un Napolitain, un Palermitain qui me disent « Oh, la province quoi? C'est toi la province, Rome ?» Ça n'existe pas. Et ça, c'est incroyable, il faut aller voir au fin fond de l'histoire, c'est le seul héritage que les Jacobins ont repris de la monarchie absolue, c'est-à-dire cette hyper-centralisation de Paris qui fait en sorte, moi-même j'en fais la preuve chaque jour en devant faire le correspondant ici, on a du mal à comprendre ce qui se passe au-delà du périphérique. Alors, un journaliste correspondant en France a du mal à le comprendre, j'ose pas imaginer des gouvernants. Donc,
Damien Lempereur, vous en pensez quoi de cette situation et de la manière dont finalement la France a été regardée, que ce soit en Italie, mais que ce soit également en Europe, dans le monde? Voilà, les chefs d'État étrangers ont quand même pas été très tendres avec la France et avec les Français.
Oui, enfin, les chefs d'État étrangers sont de moins en moins tendres avec Emmanuel Macron, surtout. Et je pense que la situation dans laquelle Emmanuel Macron met le pays, effectivement, est très compliquée, y compris sur la scène internationale. Alors, en revanche, sur l'aspect révolutionnaire, c'est vrai que dans l'histoire de France, régulièrement, le peuple se soulève et fait face à l'autorité. C'était le cas face à la monarchie, mais pas seulement. Et très souvent, d'ailleurs, la question fiscale avait... y compris dans les jacqueries, avaient été à l'origine de vraies révoltes qui ont débouché parfois sur des changements de politique ou de forme de gouvernement. Donc il y a peut-être une sorte de mimétisme, effectivement, ancré dans les gènes de notre pays. Néanmoins, sur la violence, je voulais répondre quelque chose. C'est que malgré tout, et c'est très juste ce qui a été dit sur Paris et la province, et c'est lié, mais malgré tout, le mouvement des Gilets jaunes est très majoritairement, immensément pacifique, et notamment dans les régions et dans les territoires.
Oui, bien sûr.
Et c'est vrai qu'il y a eu un prisme médiatique, parce que c'est la capitale, sur Paris, où est venu s'agréger des casseurs, pas toujours d'ailleurs, enfin qui venaient même parfois de toute l'Europe. Hein. On a parlé de l'ultra-droite, des black blocs de l'ultra-gauche. Il y a eu aussi des pillages qui n'étaient pas le fait de gilets jaunes. Et donc, si vous voulez, il y a eu un prisme déformant, puisque tous les médias étant centralisés à Paris, regardant très peu la région, et ça c'est très vrai, les régions, on a mis le... Et d'ailleurs, nous on a accusé le gouvernement, y compris, d'utiliser ces violences, de les instrumentaliser pour décrédibiliser la masse des gilets jaunes. Mais je ne nierai pas que nous avons dans les gènes en France, effectivement, et je pense moi que c'est très salutaire, une capacité à se révolter lorsque on estime que l'autorité est devenue injuste et peut-être aussi un peu illégitime.
Je me permets de revenir sur votre comparaison, la comparaison que vous avez mise en avant tout à l'heure, Paolo, si vous le permettez, avec le mouvement des Cinque Stelle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait ce mouvement des Cinque Stelle était déjà à la base un peu plus structuré en la personnalité de Beppe Grillo, et ce qui a permis en fait de former un mouvement qui a pu déboucher sur des élections, et qui n'est pas en fait la réalité du mouvement en France des Gilets jaunes, car on est vraiment sur un mouvement qui est excessivement protéiforme, et quelques leaders se distinguent, mais enfin, personne n'est à la tête de ce mouvement. Il n'y a aucune, enfin, qui est capable aujourd'hui de porter la voix des Gilets jaunes à une élection, typiquement, et en tête de liste des élections, des prochaines élections européennes, si on prend les élections à court terme.
Oui, oui, je suis parfaitement d'accord. Toute la question, d'ailleurs, est là. Le mouvement des Gilets jaunes est en quelque sorte orphelin d'un leader, un porte-parole. J'ai vu, et ça m'a fait assez rigoler, qu'à un certain moment, il y a eu Cyril Hanouna qui s'est proposé en tant que porte-parole des Gilets jaunes. J'ai dit non, mais
Francis
vraiment,
Lalanne aussi. Là.
Et ensuite France. Mais effectivement, il y a une difficulté aujourd'hui pour le mouvement des Gilets jaunes de se reconnaître dans une seule personnalité qui puisse en quelque sorte non pas se porter candidate, parce que je tiens à le préciser, probablement en France, pas tout le monde le sait, parce que vous suivez pas l'actu italienne heure par heure, mais Beppe Grillo était seulement le porte-parole, il s'est jamais impliqué politiquement, il s'est jamais porté candidat, et il a toujours dit, moi je rends juste service à ce mouvement, et je porte, parce que je suis une figure médiatique, et en plus je suis assez doué avec le verbe, et il avait effectivement une capacité oratoire de dingue de porter, disons, les revendications du mouvement. Donc aujourd'hui, la grande question, c'est ce qu'on disait justement il y a quelques minutes, c'est de savoir si ce mouvement sera capable de se structurer, y compris à travers une personnalité qui puisse en quelque sorte, non pas le normaliser, disons,
mais en tout cas l'incarner.
Et en tout cas l'incarner pour qu'il puisse ensuite gravir les échelons de la démocratie, des élections, etc. Parce que comme ça, sinon, c'est un peu...
Bien sûr, fort de votre constat et de votre regard extérieur, même si vous êtes à Paris depuis un certain nombre de temps, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de volonté de récupération de la part de certains mouvements politiques ou partis politiques en France ?
Mais oui, bien sûr, parce que... Mais bon, c'est pas forcément un mal. Ici, on a le porte-parole de Bout la France. La France insoumise, à l'autre bout du spectre politique, essaye aussi de s'emparer de cette grogne. D'ailleurs, c'est le métier des politiques, c'est de comprendre, d'intercepter le malaise des sociétés et de le traduire, disons, en une offre politique. Le risque est qu'aujourd'hui, ce mouvement des Gilets jaunes se détourne. Ils sont tellement dégoûtés de toute la politique, du système en général, et qu'il fasse, disons, il a envie vraiment d'un dégagisme total, et le risque, ou peut-être la chance, c'est pas à nous de juger, on le verra, c'est qu'ils se portent candidats eux-mêmes en tant que citoyens, comme ils ont fait en Italie. En Italie, en 2013, il y a eu cette incroyable vague où nous avons eu, dans le Parlement italien, donc à l'Assemblée italienne, nationale italienne, voilà, le plombier, l'avocat, le médecin, le type qui jusqu'à 3 jours faisait tout autre métier, qui se sont retrouvés à gérer, disons, la machine démocratique italienne, avec des avantages et des inconvénients aussi.
J'ai une petite question pour vous, si vous le permettez, Damien Lempras. Vous, quelle est votre relation aujourd'hui avec ce mouvement des Gilets jaunes au quotidien?
Oui, c'est une vraie question, parce que c'est un mouvement qui est profondément apolitique, citoyen, et qui effectivement rejette effectivement tous les partis politiques. Et à Debout la France, parfois, on peut même avoir un petit sentiment d'injustice, puisque nous, on n'a pas gouverné. On n'est pas responsable du chaos et de l'échec, et même on a souvent critiqué et annoncé les choses. Je vous parlais de notre engagement sur les péages autoroutiers, sur les stations d'essence avant le mouvement. Mais il y a ce mouvement de dégagisme et par ailleurs, il y a y compris dans la tentative parfois des Gilets jaunes de se structurer, le rejet immédiat de tout porte-parole qui essaye de s'autoproclamer porte-parole. C'est-à-dire qu'il y a une grande méfiance de la masse des Gilets jaunes de toute tentative d'organisation. Et entre nous, oui, et entre nous, c'est pas idiot, parce que je crois que celui qui a le plus intérêt aujourd'hui à ce que le mouvement se structure, c'est Emmanuel Macron. Parce que quand vous avez quelque chose de structuré, vous pouvez, vous savez, diviser pour mieux régner, promettre des choses et arriver parfois... Bon, donc il faut... Je comprends cette méfiance des Gilets jaunes. Et nous, à Debout la France, on essaie justement de pas faire de récupération politique tout en faisant, et ça a été très justement dit, notre travail de responsable politique, c'est-à-dire de proposer une alternative. On a déposé une proposition de loi qui reprend des propositions qu'on avait déjà faites pour répondre à la crise. Donc, et on essaye de convaincre un maximum de citoyens que malgré tout, une fois que les questions étaient posées, une fois que y compris les médias, et ça c'était très positif, les médias ont donné la parole à des gens qu'on n'entendait plus depuis des années, à la France des oubliés, à la France périphérique, il y a quand même eu un vrai travail des médias. On critique beaucoup les médias, mais là il y a quand même eu un vrai exercice démocratique. Okay. Notre boulot, pour répondre à votre question, c'est d'essayer de proposer une transition qui soit politique, de trouver une solution. En Italie, on a vu que cette solution finalement est passée par une sorte de coalition, et nous on pense qu'il faudra aussi en France arriver à une forme de coalition pour prendre le pouvoir, un peu à l'image de ce qui a été fait en Italie, c'est vrai, et sortir de, c'est notre avis, 30 ans de mauvaise politique. J'ajoute juste pour conclure que paradoxalement, nous sommes à Debout la France plus proche historiquement du mouvement 5 étoiles. J'ai eu la chance de rencontrer Beppe Grillo à Bruxelles notamment, que de la Ligue, puisque voilà, notre ADN était plus dans cette forme de contestation un peu gilet jaune que dans la forme d'expression de la Ligue, qui en Italie quand même a une histoire qui est pas forcément gaulliste. Mais ils ont fait la coalition et nous on pense aussi qu'il faudra faire cette forme de coalition.
Merci. Vous parliez d'une proposition de loi qui a été donc déposée à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques éléments? Oui. Et aussi savoir si elle a une chance d'être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée?
Non, malheureusement, pour être très franc, le système à l'Assemblée nationale est...
Il n'y a aucune niche pour vous.
Est tel que même si on arrive à rassembler tous les non-inscrits, on peut citer par exemple Jean Lassalle, hein, qui a fait des choses avec nous, on a des sénateurs aussi non inscrits, quand vous avez une majorité absolue à La République En Marche, votre projet de loi ne passera jamais.
Et c'est bien le problème. Je ne vous dis pas que la proposition de loi en l'occurrence passera ou non, je vous demande juste si elle a une chance d'être inscrite
passera,
à l'ordre du jour
même pas le
et
filtre.
D'être débattue.
Non, elle passera même pas le filtre des commissions, etc. Parce que c'est malheureusement comme ça qu'est organisé. On pourra éventuellement proposer des amendements sur les projets de loi qui sont inscrits, mais cette proposition en tant que telle ne sera pas inscrite, et c'est précisément un problème. Et sur le fond, puisque c'est aussi votre question, on a proposé différents types de mesures. Donc pour faire très court, déjà l'annulation de toutes les taxes supplémentaires qui ont été imposées de façon injuste, mais au-delà, l'idée qu'il faut changer de modèle. Tout à l'heure, je vous parlais du modèle économique. Un seul exemple, parce qu'on n'a pas... c'est bien, on a du temps avec vous pour développer, mais on n'a pas non plus 3 heures, et on pourrait parler de politique économique pendant des heures. Mais une seule mesure, les travailleurs détachés. C'est-à-dire la façon dont est organisée au sein de l'Union européenne la mise en concurrence des travailleurs vers le bas. Puisqu'on peut, et c'est la règle de l'Union européenne, je ne dis pas, c'est comme ça que c'est la loi européenne. On peut venir travailler en France, quelle que soit sa nationalité, et ça c'est bien, c'est normal. Mais l'employeur qui vous embauche ne paiera pas les charges sociales en France. Si vous êtes polonais, roumain ou même italien, bon, c'est pas le cas des...
Oui, l'Europe essaie d'avancer sur ces mesures, effectivement.
Mais ça, c'est quelque chose qui me semble profondément injuste, alors que normalement, ce que devrait produire la coopération européenne, c'est plutôt éventuellement des échanges, oui, y compris travail, mais en faisant monter le niveau social vers le haut.
Disons
et là, c'est le contraire.
Excusez-moi, comme justement on a un peu de temps pour développer, disons que ça, ce sont typiquement des ajustements à la marge. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, Debout la France, en tant que parti politique, propose comme système économique? Vous dites qu'il faut une refonte complète. Oui. Quel est votre projet?
Moi, je ne considère pas sincèrement que c'est à la marge. Je pense que c'est vraiment symbolique.
Ce n'est pas en réglant le problème des travailleurs détachés qu'on va régler le problème de la dette en France, qu'on va régler le problème des taxations.
Oui, mais c'est effectivement juste une mesure un peu emblématique. Mais ce qu'il faudrait, selon nous, c'est sortir de ce libre-échange tel qu'il est organisé aujourd'hui, au niveau communautaire et aussi mondial, qui est totalement déloyal. Et on aimerait réintroduire, nous, ce qui est aujourd'hui interdit par les règles de l'Union européenne, une priorité à la relocalisation sur le territoire européen ou sur le territoire national par la mise en œuvre d'un protectionnisme intelligent, par exemple, qui permettrait de taxer les produits s'ils sont fabriqués en Chine dans des conditions inimaginables, et de favoriser les relocalisations. Et là aussi, on a plein de mesures, mais par exemple, on parle beaucoup de l'ISF, l'idée de réintroduire l'ISF. C'est marrant, d'ailleurs, comme la gauche, une révolte d'opposition à de nouvelles taxes, propose finalement de rétablir une taxe. Nous, on avait proposé éventuellement de supprimer l'ISF à la condition que les bénéfices soient réinvestis dans l'économie européenne ou française. C'est-à-dire qu'il faudrait...
Donc sur la partie immobilière.
Oui. Il faudrait qu'il y ait, à notre sens, à chaque fois, une incitation à produire en France. Alors il y a les sujets environnementaux. Comment est-ce qu'on peut avoir une politique écologique environnementale si le continent est ouvert à tous les vents? Et je pensais, là, en parlant de la Chine, à la condition des animaux. Ça peut paraître un détail, mais la façon dont sont traités les animaux, l'agroalimentaire, mais aussi les vêtements, etc., on ne peut pas continuer à accepter des produits comme ça et imposer des normes en France. C'est-à-dire on est dans un système totalement inversé où on s'impose à nous-mêmes des normes que les autres ne respectent pas. On interdit à nos entreprises l'intelligence artificielle, la recherche contre le cancer, les énergies dans les océans. On a la deuxième surface maritime du monde en France. La Chine, l'Inde, les États-Unis investissent des milliards d'euros. La Chine dans l'intelligence artificielle. Ils subventionnent, c'est de l'argent public, c'est une forme de planche à billets. C'est interdit par l'Union européenne, on est dans un dogme. Donc si vous voulez, on propose, et même si on a du temps, on pourrait en parler pendant des heures, il faut faire éclater tous les dogmes qui consistent à interdire toute forme d'investissement dans l'avenir, qui consistent à accepter tout échange déloyal et qui consistent à refuser toute protection. Je note juste qu'il y a une industrie qui est protégée en France, c'est l'industrie du luxe. Alors, c'est deux industries. C'est l'industrie, c'est l'exception culturelle, du cinéma, des artistes. Il y a un protectionnisme. On peut subventionner le cinéma, on se protège, il y a de l'argent public. Là, c'est autorisé, parce que c'est les artistes, les comédiens. Et c'est très bien. Je voyais l'autre jour un reportage sur un chef étoilé d'un grand palace parisien. Et ce chef étoilé avait un discours de « je fais de la cuisine locale, biologique, les circuits courts, c'est très bien le local. Mais pourquoi est-ce qu'il est autorisé pour le luxe ?» de faire du local, de faire du territoire, de faire ce qui est autorisé pour les artistes, l'exception. Pourquoi c'est pas autorisé pour les ouvriers? Pourquoi c'est pas autorisé pour les agriculteurs? Pourquoi c'est pas autorisé pour les policiers? Pourquoi est-ce que... Bon, bref, voilà. Donc c'est un changement total de paradigme économique. Moi, j'ai fait une école de commerce. On m'a enseigné un modèle de libre-échange qui, à mon avis, date du 19e siècle, Ricardo Smith. Et je pense que dans la mondialisation, il faut inverser totalement la façon de concevoir l'économie. Et dans la mondialisation, ce sont les structures indépendantes, souples, qui font des coopérations, qui s'en sortent mieux, selon moi, selon nous.
Bah écoutez, on aura de toute manière l'occasion d'en reparler, hein, Damien Lempereur.
Quand vous voulez.
Les européennes arrivent à grands pas. Debout la France sera présent,
oui.
En tout cas.
On aura une liste, bien
exactement,
sûr.
Exactement, donc on aura l'occasion, effectivement, de vous revoir. Je vais remercier également Paolo Lévy
de nous avoir
accompagné. Merci également à toi, Léa. Quant
beaucoup.
À nous, donc on marque une pause durant ces fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve à la rentrée avec de nouveaux invités politiques et surtout toujours plus de débats. Et de débats politiques, parce que c'est passionnant le débat politique et le débat d'idées. À très bientôt.
Au revoir.
Merci.